Les informations avec Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonsoir. Les plus importants transferts depuis le début de l'épidémie. Une cinquantaine de patients malades du coronavirus ont été acheminés par train ou par hélicoptère vers d'autres régions ou vers l'Allemagne. Un avion militaire allemand est venu chercher deux malades à Strasbourg pour les emmener à Ulm. Il est la première figure politique nationale victime du coronavirus. L'ancien ministre Patrick Devedjian est décédé la nuit dernière à 75 ans. Les hommages de tous bords se sont multipliés tout au long de la journée. Hommage venu notamment de la communauté arménienne dont il avait épousé toutes les causes. Et puis après la mort également d'un gardien de prison à Orléans, les syndicats pénitentiaires appellent à poursuivre l'équipement des personnels, y compris de ceux qui ne sont pas au contact des détenus. À l'étranger, un nouveau record de décès. En Espagne, le gouvernement britannique qui prévoit une très longue période de confinement. Et puis la Russie qui ferme demain toutes ses frontières. Dans le téléphone sonne jusqu'à 20h, retour sur la place du numérique dans nos vies confinées. Une place de plus en plus grande, forcément. Pas de journal des sports, mais sur France Télé ce soir, un Stade 2 très spécial. Et puis la météo, le retour d'un temps bien ensoleillé au nord, d'un axe Vendée-Poitou-Alsace plus menaçant au sud.
France Inter.
TGV médicalisé, hélicoptère de l'armée française et même un avion militaire allemand. En tout, c'est une cinquantaine de patients qui ont été transférés ce week-end du Grand Est vers d'autres régions ou vers les pays voisins pour soulager, c'est toujours la priorité, soulager les hôpitaux risquant la saturation. Si la solidarité s'exprime entre les régions, elle existe aussi et c'est à noter au niveau européen puisqu'au total, depuis le début de l'épidémie, 80 Français atteints du coronavirus ont été hospitalisés au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne, nos voisins d'outre-Rhin qui tout particulièrement se distinguent. David Philippot nous appelle de Berlin.
De l'autre côté de la frontière alsacienne, la région du Bade-Württemberg dispose de 3200 lits avec respirateurs. Elle a beau être l'une des régions du pays les plus touchées par l'épidémie. Quatre cliniques universitaires de ce land ont proposé d'accueillir des patients étrangers. Des Alsaciens ont également été pris en charge en Hesse et à Berlin. C'est un signe important de solidarité. L'Europe doit résister ensemble, a commenté la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. Un Airbus A310 médicalisé a transporté ce week-end 6 malades en provenance de l'hôpital de Bergame et une autre rotation vers la Lombardie est prévue pour bientôt, vendredi. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Allemagne peut offrir des places à 123 patients, un chiffre qui pourra évoluer en fonction de la situation. Le pic de l'épidémie est attendu ici mi-avril, selon les experts. L'Allemagne a également livré cette semaine des respirateurs à la France et 1 million de masques à l'Italie. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Et donc il y a eu cet après-midi cet avion militaire allemand venu à Strasbourg. Les transferts par hélicoptère de l'armée française également continuent. Deux autres malades ont été évacués de Metz vers l'hôpital d'Essen en Allemagne, deux autres vers Grenoble. Au total, 10 patients auront été transportés ce week-end dans le cadre de l'opération Résilience annoncée mercredi par Emmanuel Macron. Par ailleurs, ce sont deux TGV médicalisés qui sont partis ce matin de Nancy et de Mulhouse direction le sud-ouest. 36 malades au total qui seront dispatchés dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Et puis ce n'est pas de la solidarité, mais un avion en provenance de Chine, un avion contenant notamment plus de 5 millions de masques médicaux, est arrivé tout à l'heure à l'aéroport de Roissy. Le gouvernement avait annoncé avoir commandé plus d'un milliard de masques, notamment à la Chine. D'autres vols sont attendus dans les prochains jours. Le combat ne fait que commencer, avait dit hier le Premier ministre, qui a prédit 15 jours plus difficiles encore que les précédents, d'autant plus urgent justement d'être doté de masques supplémentaires, car c'est l'inquiétude principale, les masques et les protections de façon générale, l'inquiétude qu'expriment en priorité les personnels de l'hôpital Tenon à Paris où Timur Özturk est retourné.
Le matériel manque déjà pour les agents de sécurité, les premiers au contact des malades à l'entrée, aux urgences, obligés de porter leur masque plus longtemps que les préconisations sanitaires.
Des fois toute la journée. Et normalement, on doit les changer tous les 4 heures. Là, je viens de demander à un collègue, là, vous avez le masque depuis quand? Il m'a dit depuis hier. C'est pas normal.
Et cet agent qui souhaite rester anonyme ne porte qu'un masque chirurgical, très peu protecteur. Pour les soignants, ce n'est pas toujours mieux. Margot est élève infirmière en fin d'études.
On devait avoir une commande de masques FFP2 et on a été volés. Donc on les a pas reçus, du coup on en avait 3 pour la journée et on était 4. On fait un peu plouf-plouf sur les masques, quoi.
Affectée en réanimation, elle subit déjà toute la dureté de cette épidémie.
On fait des tris, c'est horrible, mais on fait des tris à partir de 56 ans. Malheureusement, c'est les plus jeunes en premier, en réa, et il n'y a pas de place en fait. Donc on les accompagne comme on peut, il y en a qui résistent et qui arrivent à reprendre un peu de vigueur, tout ça, mais... Enfin, c'est compliqué en tant que soignant de se dire que ça va être pire alors que ça l'est déjà.
Les soignants doivent aussi supporter le décès de patients jeunes. Hier, un homme de 44 ans est mort dans le service de Margaux. Il n'avait aucun antécédent médical.
En rappelant que la meilleure réponse au virus, c'est de rester chez soi, à noter que l'amende pour récidive de violation du confinement dans les 15 jours est portée à 200 €. Le décret du Premier ministre est paru ce matin au journal officiel. L'amende de base reste à 135 €. Mais la contravention peut être portée à 200 € en cas de récidive dans les 2 semaines et 450 € si elle n'est pas payée dans les 45 jours. C'était un esprit libre, la réaction cet après-midi d'Emmanuel Macron à la mort la nuit dernière de l'ancien ministre Patrick Devedjian, victime du coronavirus. Il voulut toujours penser la droite dans la nuance et la complexité, écrit le chef de l'État dans un communiqué. Parfaitement à l'unisson donc, des réactions qui se sont multipliées tout au long de la journée. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine était hospitalisé depuis plusieurs jours. Il était âgé de 75 ans, ancien maire d'Antony, ancien secrétaire général de l'UMP, sarkozyste de la première heure. Il était aussi l'une des voix importantes de la communauté arménienne et c'est à ce titre qu'il avait salué la loi de janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien de 1915.
Mon père, mon propre père l'a vécu. Il en était moralement inguérissable. Des deux grands-pères de mes enfants, l'un a été déporté par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième a été déporté par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment puis-je leur expliquer la différence ? Dites-le-moi.
Patrick Devedjian sur France 3. En 2001, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, ont toutes les deux salué en lui, outre sa culture, son humour et sa libre parole, son engagement permanent pour la cause arménienne. C'est l'un de leurs frères qu'ont perdu les Arméniens de France, comme le souligne aussi le co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes, Arat Oranian. Il est au téléphone d'Élodie Forêt.
C'est quelqu'un qui s'est toujours engagé pour la cause arménienne, et ce, dès le début des années 80. Il a été l'avocat des militants de la cause arménienne au moment même où il était à l'époque l'avocat du RPR et de Jacques Chirac. Donc c'était un grand écart qui n'était pas forcément évident. Comme Charles Aznavour, c'est le modèle d'une intégration exemplaire. Quelqu'un qui réussissait sans aucune difficulté à allier son amour immense de la République, sa passion pour la France, et puis en même temps qui était porteur de cette histoire extrêmement douloureuse du peuple arménien. Il a joué un rôle formidable, exceptionnel, pour réussir à faire que la France reconnaisse finalement ce génocide, qui est devenu depuis une cause universelle. Et on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas oublier ça, parce que c'était vraiment le type même de l'engagement sincère, désintéressé, qui fait honneur à la politique.
Arat Oranian, qui est aussi le directeur de publication des Nouvelles d'Arménie. Le chanteur Christophe, hospitalisé pour insuffisance respiratoire. Son entourage confirme ce soir l'information du Parisien, selon laquelle l'auteur des Mots Bleus a été testé positif au coronavirus. Le chanteur Christophe est âgé de 74 ans. Le coronavirus qui vient aussi de faire ce week-end sa première victime parmi les gardiens de prison à Orléans. Un homme de 54 ans décédé cette semaine d'une crise cardiaque. Ses proches avaient demandé un test post-mortem dont la conclusion n'a laissé aucun doute. Il était bien infecté par le Covid-19. Pour les syndicats pénitentiaires, il est plus urgent, plus qu'urgent, de doter tous les personnels des protections nécessaires. Jean-François Forget de l'UFAP-UNSA au téléphone de Charlotte Piret.
Il faut essayer de respecter les gestes barrières. C'est d'autant plus compliqué avec les missions qui nous incombent, un peu comme les forces de l'ordre d'ailleurs. Et depuis hier, tous les agents qui sont en contact avec la population pénale sont pourvus de masques. Maintenant, ça résout qu'une partie du problème, puisque le reste des personnels qui ne sont pas en contact direct n'ont toujours pas de distribution de masques. Donc les personnels sont toujours très inquiets. Alors il y a un petit soulagement avec la distribution de ces masques, mais bon, c'est compliqué parce qu'on doit continuer à exercer nos missions de sécurité pour notre pays, pour nos concitoyens, mais il faut absolument que nous soyons mis en sécurité, et pour le coup en sécurité au sens propre du terme et en sécurité sanitaire.
Au chapitre économique et social également, parmi les mesures aux entreprises et aux salariés mises en place par le gouvernement, un mot sur le chômage partiel dont plus de 200 000 entreprises ont demandé à bénéficier à ce jour. Ce qui concernerait, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, plus de 2 millions de salariés dans les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'hébergement, restauration, du commerce non alimentaire et de la réparation automobile. Le dispositif de chômage partiel prévoit une indemnisation des salariés à 70% de leur rémunération brute et une allocation pour les entreprises. Toutes les demandes sont réputées acquises. On fera les contrôles après, explique Muriel Pénicaud, qui n'a pas totalement rassuré l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, pour laquelle le dispositif est difficilement applicable. Alain Griset, son président, au téléphone d'Hélène Philly.
On a beaucoup travaillé, et même bien travaillé avec le gouvernement, pour qu'il y ait des mesures adaptées à nos entreprises, hein, artisans, commerçants, professions libérales, c'est 3 millions d'indépendants. Mais comme bien souvent, on voit bien que la mise en application est un petit peu compliquée. Il y a d'abord la question du chômage partiel, où, vu le nombre, je suppose, de demandes, on a naturellement quelques difficultés pour que les dossiers soient enregistrés. Il y a souvent des demandes assez nombreuses, complémentaires, comme s'il y avait une sorte de doute, de suspicion sur le bien fondé de la demande, ce qui est aujourd'hui naturellement pas d'actualité au regard de ce qu'on vit. La complexité pour nos entreprises est toujours plus lourde que pour les grandes entreprises. Et donc tout ce qui doit être simple, automatique, est naturellement pour nous essentiel. Et il faut absolument que les annonces du gouvernement soient réalisées, parce que sinon, ce serait dramatique, d'abord pour nos entreprises, et en termes d'image, catastrophique.
Le syndicat des artisans et commerçants qui demande que l'indemnisation de 1500 euros prévue pour les très petites entreprises ne soit pas soumise à une baisse d'activité de 70%, mais de 50%. Le gouvernement veut-il faire payer la crise aux seuls salariés? C'est le point de vue d'Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise du Nord, qui l'a dit à France Info, en évoquant l'augmentation de la durée maximum de travail de 48 à 60 heures, ou la assouplissement des règles limitant le travail dominical. S'il s'agit de faire des efforts, dit-il, alors tout le monde doit être mis à contribution. Il faudrait par exemple interdire pour 2 ans le versement des dividendes aux actionnaires. Face au gouvernement qui refuse les propositions de l'opposition, pas question pour lui de décréter l'union sacrée. Le ton était un peu différent ce midi sur France Inter avec Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui veut dire les choses mais sans polémique.
Je ne veux pas, au moment où nous sommes dans cette crise, affaiblir le gouvernement, donner le sentiment que nous nous livrerions à des polémiques qui sont pour l'instant inutiles, et donc il faut se concentrer sur l'essentiel.
Alors parlons d'union nationale, le fait d'être unis dans la phase de crise que nous traversons.
Moi je préfère le mot de solidarité. Je suis solidaire pleinement de ceux qui se battent aujourd'hui, et qu'il s'agisse des soignants, qu'il s'agisse y compris des gouvernants. À chaque fois que les décisions seront prises et qu'elles vont dans le bon sens, j'en suis pleinement solidaire. Je veux aussi être un responsable politique, et donc ça veut dire que je m'autorise la possibilité aussi de dire quand les choses ne vont pas complètement, parce que je pense que c'est notre devoir d'alerter, de relayer ce que dit la société civile, qui parfois oui. S'inquiète, a raison, et donc il faut être à la fois complètement juste avec ce gouvernement, ne pas chercher les polémiques inutiles, mais aussi alerter quand à chaque fois que c'est utile.
Le président, le secrétaire du PS, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ce midi sur France Inter avec Ali Badou. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, est à peu près sur la même longueur d'onde. Dans le Parisien dimanche, il appelle à se rassembler derrière l'exécutif, jugeant qu'en la circonstance, la désunion nationale serait la pire des choses et que le temps des questions viendra. La situation dans les EHPAD, en attendant le bilan chiffré des victimes qui n'a pas été à ce jour intégré au décompte quotidien du coronavirus, le gouvernement a promis de premier chiffre dans la semaine, mais ce week-end, un EHPAD des Vosges a fait savoir que 4 de ses résidents étaient décédés ces derniers jours. Un autre dans l'Ardèche annonce ce soir la mort de son 10e pensionnaire en 10 jours. Dans les deux cas, de nombreux autres résidents sont malades et certains ont dû être hospitalisés. Alors on sait que le bilan sera lourd, très lourd à la fin de cette période dans tous les domaines, y compris, on l'a dit, pour les violences conjugales ou familiales. Les premiers chiffres révélés cette semaine font état d'une hausse de 32 à 36% des signalements enregistrés par les forces de l'ordre. Ce soir, c'est un père de famille particulièrement violent qui a été présenté au juge après avoir frappé vendredi à Tremblay en France, près de Paris, son fils de 6 ans. L'enfant transporté d'urgence à l'hôpital a été déclaré en mort cérébrale. Emmanuel Leclerc.
Oui, le père est en ce moment même devant le juge d'instruction du tribunal de Bobigny. Il devrait être mis en examen dans la soirée pour des violences ayant entraîné une infirmité permanente. La procureure a demandé son placement en détention provisoire. L'homme, âgé de 45 ans, était apparemment en train de faire ses devoirs à son fils quand il a commencé à le frapper. Il y avait deux autres enfants du couple dans le logement. Il l'a frappé à main nue, selon les premiers éléments de l'enquête. Et quand le SAMU et les pompiers sont arrivés, le jeune garçon était en arrêt cardiaque. Et vous l'avez dit, en état de mort cérébrale. Les deux jours de garde à vue n'ont en fait pas permis d'expliquer clairement ce qui s'est passé vendredi soir. Selon une source proche du dossier, selon nos informations, ce père de famille avait été déjà condamné en 2017 pour des violences aggravées sur l'une de ses filles aînées, âgée de 15 ans.
Voilà, Emmanuel Leclerc, des violences qui sont exacerbées par le confinement. On peut rappeler le numéro d'Allo Enfants en danger, le 119. Et puis à côté des violences, les trafics en tout genre également se développent, de gens qui profitent de la situation. Un ingénieur de 29 ans, salarié d'un hôpital de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, a été mis en examen ce soir et placé sous contrôle judiciaire pour vol aggravé de respirateur artificiel. Il avait publié une annonce dans le Bon Coin.
Il est 19h16, c'est le journal d'Yves de Caen.
À l'étranger, un nouveau record de décès en Espagne sur les dernières 24 heures. 838 morts, soit au total plus de 6500 depuis le début de l'épidémie. L'épidémie qui s'aggrave également au Royaume-Uni avec plus de 1200 décès. Le gouvernement britannique prévient ce soir qu'il va falloir se préparer à une longue période de confinement. Demain, c'est la Russie qui va monter d'un cran ses mesures de protection sans aller encore jusqu'au confinement général. Après la fermeture des bars, restaurants et commerces, la Russie annonce pour demain la fermeture de toutes ses frontières. Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
Le système de santé russe pourra-t-il faire face à la pandémie? Beaucoup en doutent, mais les autorités multiplient les annonces. La dernière en date, dès lundi soir minuit, la Russie sera coupée du monde extérieur. À de rares exceptions près, il sera impossible de sortir ou d'entrer dans le pays. Officiellement, la Russie recense 8 morts et 1534 personnes contaminées par le virus, dont plusieurs centaines sont confinées dans un hôpital moscovite. Des chiffres plutôt faibles que certains expliquent par la fermeture des frontières avec la Chine fin janvier et l'interdiction faite aux Chinois de pénétrer sur le territoire russe début février. Mais certains hauts responsables doutent de leur fiabilité. Alors depuis hier et jusqu'au 14 avril à Moscou, les personnes de plus de 65 ans ont l'interdiction de sortir de chez elles. Vladimir Poutine a par ailleurs décrété que la semaine prochaine serait chômée, incitant la population à rester chez elle et à ne sortir qu'en cas de nécessité. À l'exception des pharmacies et des magasins d'alimentation, tout est fermé, même les parcs, en attendant le pic de l'épidémie prévu cette semaine ou au début de la suivante. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Allez, à 19h18, d'habitude sur France Inter, le service des sports prend la main pour la présentation des résultats du week-end. Un JDS en stand-by, évidemment, depuis maintenant un mois. Et c'est le cas aussi de Stade 2 sur France 3. Stade 2 qui proposera ce soir une émission spéciale et très particulière dans le genre. Les journalistes sont à domicile et les reportages ont été réalisés à distance. Louis de Bergevin.
Dans une rédaction vide, devant les caméras, un journaliste, Mathieu Lartaud, qui présente l'émission. Les autres intervenants sont chez eux. Tout a été enregistré avant. Thierry Vildary, l'un des reporters, s'est filmé donnant la réplique de son canapé. Toujours enfermé chez lui, il a réalisé un reportage. Il raconte le confinement dans l'Aveyron d'une championne du 800 mètres, Renelle Lamotte.
Je lui ai demandé de se filmer par petites tranches, le matin au petit déjeuner, surtout son entraînement à l'intérieur, des plans extérieurs du village, etc., de façon à composer quasiment un reportage comme si on était allé filmer sur place. Moi, j'ai enregistré mon commentaire dans ma chambre parce qu'il y a moins d'écho avec mon téléphone. Et tout ça est parti chez le monteur qui a assemblé tout ça.
Une émission bidouillée, avec les moyens du bord, mais qu'il était important de faire, explique Pascal Golomer, directeur délégué au sport à France Télévisions, pour traiter cette actualité exceptionnelle.
Le sport est à l'arrêt dans le monde entier. Les Jeux Olympiques ont été reportés d'un an, quelque chose que nous n'avions jamais vécu. Et plus largement, voilà maintenant plusieurs semaines que les footballeurs, les rugbymen, les athlètes dans tous les sports doivent s'adapter à cette crise, comme des millions de Français.
Raconter cette actualité hors du commun, ça valait bien une émission favorable. Fabriqué sur un canapé.
Et c'est sur France 3, tout à l'heure à 20h sur France Inter, rappelons-le. On garde le moral en attendant, avec dès demain le retour du rire en direct chez Nagui de 11h à 12h et chez Charline Vanhoenacker par Jupidémie, en direct également de 17h à 18h, chacun chez soi, tous ensemble.
Tous ensemble, c'était le journal d'Yves de Caen.